Bonjour et bienvenue à cette nouvelle balado-diffusion Panorama Cinéma. Cette fois, on fait un spécial entrevue pour la sortie du film En terre inconnue de Stéphane Lafleur. Donc, on est avec Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui.
Donc, félicitations pour ton prix. On en parlait un peu avant de commencer. Donc, oui, pour ton prix à Berlin, pour ton film En terre inconnue qui est sorti hier.
En salle, oui.
Et présenté en ouverture des rendez-vous du cinéma québécois mercredi.
Exact.
Comment a été la projection d'ouverture?
Très bien. C'est toujours la plus stressante parce que la première à Montréal, parce que c'est devant les pères et les amis et les collègues qui font aussi des films et donc qui sont souvent assez critiques aussi.
Puis, la réception, ça a bien été?
La réception, ben écoute, évidemment, les gens qui détestent ça, généralement, ils viennent pas te le dire tout de suite après. Tu le sais plus tard, mais écoute, beaucoup de beaux commentaires cette soirée-là.
Good. Commencer par une question assez générique, mais qui pourrait nous guider assez bien pour le reste de l'entrevue. Mais dans le fond, après Continental, d'où est parti le projet pour En terre inconnue?
Bien, moi, j'ai commencé à écrire ce film-là pendant l'été 2007. On avait fini Continental, le mix, puis l'étalonnage, là, genre en juin. Puis on est allé présenter le film à Venise, si je me souviens bien, c'est fin août, début septembre à peu près. Puis entre les deux, donc pendant l'été, moi, j'ai commencé à écrire En terre inconnue. J'avais eu l'idée déjà. Fait que j'avais écrit je sais pas combien de pages que j'avais remis à mes producteurs. Je leur avais fait un pitch du film. Il était déjà bien emballé. Puis tout de suite, je me souviens qu'au mois d'août, je pense qu'on avait déposé en développement. Puis là, bon, ben avec les voyages puis les festivals avec Continental, j'ai arrêté d'écrire pendant une couple de mois. Puis je pense que c'est après Noël, là, j'ai repris du service puis j'ai commencé à retravailler ce scénario.
Puis ça a été tourné en hiver 2008,
Non, ça a été tourné l'année dernière, il y a un an exactement, donc février 2010.
OK. C'est dans quelle ville?
À Vaudreuil, février-mars 2010, principalement à Vaudreuil, donc à l'extérieur de Montréal, puis un petit peu à Prévost pour tout ce qui est le chalet. Là. Okay.
Je pose cette question-là, dans le fond, un peu pour aborder l'idée du terrain. Je pense qu'on en parle dans le titre, du lieu. Je me demandais où se situe, selon toi, l'ironie du titre, ou l'ironie ou la réflexivité, dans le sens où est-ce que tu es en terrain connu par rapport à ton film? Où est-ce que tu vas dans le terrain que tu connais pas?
Ouais. C'est une bonne question. Le titre est venu tôt, en tout cas... Souvent, des fois, je dis à quelqu'un, j'ai l'impression que j'ai des titres en attente d'un film. Là, comme tu trouves le titre, puis après ça, il faut que tu écrives un scénario juste pour...
Profiter avec.
C'est une très bonne question. Où est-ce que j'étais? Ben bon, j'étais en terrain inconnu. Évidemment, j'ai travaillé avec à peu près toute la même équipe. Mm-hmm. Que sur Continental. Fait que déjà, il y avait une idée de continuité là-dedans.
Autant technique, parce qu'il y a quelques acteurs qui reviennent.
Je te parle surtout de l'équipe technique. En fait, Sarah Michara à la direction photo, André-Hélène Beauparlant à la direction artistique, Sophie Lefebvre au costume, Sophie Leblon au montage, la même gang au son aussi, Sylvain Bellemare à la conception sonore, Bernard Guerrier puis Strabo au mix. Etc. au casting, c'était vraiment, ça devient comme une espèce de famille qui se précise aussi, ça devient une tribu un peu, une petite troupe. Fait que je pense que déjà, en choisissant ça, de retravailler avec le même monde, il y avait quand même une idée de continuité là, dans la démarche, qui était déjà là aussi à l'écriture, je pense. Je pense qu'il y a des cinéastes qui essaient de se réinventer complètement à chaque film. Ouais. Puis j'admire beaucoup ça. Là. Tu sais, je pense à Michael Winterbottom qui fait des films super différents.
Qui en fait souvent, en plus, il tourne beaucoup.
Oui, il tourne beaucoup, mais puis des trucs complètement différents. Puis ça j'admire ça beaucoup. J'ai pas l'impression que c'est ma démarche à moi. Tu sais. J'ai l'impression que moi, j'essaie de, en tout cas pour l'instant, de peaufiner une affaire. Puis que là, je suis juste à mon deuxième film, mais que le deuxième film... reprend des choses du premier, des fois, pour essayer de les corriger. J'ai l'impression que j'essaie de corriger des choses dont moi, je n'étais pas satisfait nécessairement. Puis en même temps, de faire un petit pas en avant puis de pousser un petit peu plus loin. Tu sais. Disons, si on parle juste esthétiquement, en terrain connu, il y a une couple d'affaires qu'on s'était dites, moi puis Sarah Michara, entre autres, puis André-Hélène Beauparlant, là, qui est vraiment un noyau de création assez dur. Là. Elles sont... Je les mets au courant, en fait, du scénario très tôt. Là. Dès que j'ai eu l'idée, ils sont au courant. Okay. Déjà, le travail de réflexion commence bien avant que le scénario soit écrit, en fin de compte. Puis esthétiquement, moi, je savais que Continental avait une certaine esthétique qui était conditionnée par... par la nature des personnages, entre autres, puis par l'histoire, si on veut, par le...
L'idée de l'isolation.
Exactement,
solitude,
exactement, pour par le propos du film. Puis, ça aurait été tentant de refaire exactement la même chose pour le deuxième, parce que ça avait été... Bon, évidemment, c'était une esthétique qu'on remarque beaucoup, les plans fixes très longs, puis tout ça. Bien que j'avais pas envie de faire un film à la Steadicam, mettons, parce que ça me convient pas, mais j'avais vraiment envie que pour ce deuxième film-là, l'esthétique prenne pas le dessus ou qu'il y ait pas de rigidité. Tu sais, que ça, peut-être que, avec le recul, peut-être que Continental est scolaire à certains égards. Tu sais, peut-être que je m'étais fixé des règles un petit peu trop strictes. Alors que pour ce film-là, avec Sarah, on s'était dit bon, mais on va vraiment suivre le film, puis on veut que l'accent soit mis sur les personnages, puis sur
Mais je pense, pour l'avoir peut-être remarqué, quand je l'ai vu, de peut-être plus d'ampleur au niveau de la mise en scène, plus de laisser place à ce qu'il y a dans l'image plutôt qu'à l'image elle-même.
Peut-être, mais surtout qu'en bout de ligne, on remarque moins l'esthétique. Même si elle est là, tu sais, puis même s'il y a de la rigueur dans le travail, dans la composition des plans, mais... C'est un film plus découpé, c'est un film... fait que je voulais pas m'imposer de règles, de dire, ben il faut que tous les plans soient... les plans séquences, je sais pas quoi, mais je me dis, si j'ai à découper, je découpe, si je découpe pas, je découpe. Si la scène peut se tenir à un plan, je le fais à un plan.
Bon, on y reviendra à l'aspect formel. Je veux quand même un peu revenir au niveau des lieux. Bon, on a parlé des lieux de tournage, puis de où tu te situais par rapport au film, mais bon, on parle de banlieue. Je pense que c'est un sujet assez récurrent dans le cinéma en général. Ta manière à toi de traiter cette banlieue-là en termes de, bon, un peu de découverte de l'étrange en même temps à l'intérieur des lieux qui semblent complètement banals, mais personnellement, pour la première fois, pour une des premières fois, j'ai eu l'impression de vraiment me retrouver ailleurs. Et pourtant, moi, je viens de la banlieue et d'avoir perdu beaucoup de repères. Comment tu as voulu aborder cette idée de banlieue-là?
Bien, c'est parce que moi, la banlieue, c'est pas un... Pour moi, c'est pas un propos dans le film, dans le sens que c'est pas comme une prise de position, puis c'est pas un regard que je pose, en tout cas.
Mais ça reste un thème abordé.
Bien, ça reste... Pour moi, c'est plus c'est vraiment plus un décor. Évidemment, c'est un décor qui parle des personnages aussi, mais moi, venant de la banlieue, on dirait quelque chose de naturel là-dedans, de tourner ces lieux-là, puis... J'en parlais tantôt avec quelqu'un d'autre, parce qu'on me pose beaucoup de questions là-dessus, puis je me suis mis à réfléchir là-dessus, puis je me dis que peut-être... Puis il y a beaucoup de cinéastes de mon âge, je pense à Denis ou Maxime Giroux, tout ça. Nous, on a grandi avec... on a vu beaucoup de cinéma dans les années 90, on a vu le cinéma de la génération juste avant nous. Oui. Tu sais, je pense à Denis Villeneuve, André Turpin, tout ça, puis même... Il y avait beaucoup de films qui étaient tournés sur le plateau en plein été, les films de Charles Binamé, tout ça. Puis j'ai l'impression que, puis peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que naturellement, on a voulu se distinguer peut-être de cette imagerie-là, tu sais. Puis de revenir peut-être à un cinéma. Il y a, tu sais, dans le cinéma québécois d'avant, il y avait beaucoup de cinéma qui se tournait à l'extérieur de Montréal. J'ai l'impression qu'on a peut-être voulu retourner à ça, mais ça, c'est mes théories, tu sais. Peut-être que je me trompe, mais si tu remarques, tu sais, comme tous les cinéastes, en même temps, on a eu le même réflexe, tu sais.
De se détacher de l'idée de l'espèce de la jeunesse existentielle de Montréal qui était filmée justement dans ces années-là, fin des années 90.
Exact, ouais. Exact. Puis peut-être que Puis j'ai l'impression que tout ça traduit et parle de notre époque aussi en même temps, sans qu'on s'en rende compte. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de corpus de films qui est en train de se dessiner en ce moment, puis qui sera intéressant à regarder dans 5-10 ans, tu sais, avec un peu de recul. Puis peut-être que dans 5-10 ans, la prochaine vague de cinéastes va avoir aussi envie de se détacher de ça, puis de faire complètement... De faire d'autres choses, puis je sais pas quoi, là. On peut...
Puis, comment tu perçois ça, l'idée de te retrouver à l'intérieur d'un courant? Je sais que, en fait, aucun de vous doit aimer l'idée de se retrouver à l'intérieur d'une tendance, mais Est-ce que tu vois une différence entre ton cinéma à toi et un cinéma peut-être plus balisé de cinéma d'auteur qui est peut-être en vogue en ce moment? Essaies-tu de te démarquer de ça? Est-ce que tu...
C'est-à-dire que... tu sais, comme là, c'est parce qu'il y a des coïncidences aussi un peu étranges. Par exemple, moi et Denis Côté, on a tourné nos films à peu près en même temps, là, disons, à une semaine d'intervalle. Il finissait son tournage, puis il y avait une partie de son équipe qui s'en venait sur mon film, tu sais. Okay. On a tourné le même hiver, puis sans se consulter, sans se raconter nos scénarios, puis on regarde les deux films, puis il y a quand même des lieux communs, il y a des idées qui reviennent dans les deux films, des images que c'est assez hallucinant, tu sais. Puis on les a écrits probablement en même temps, comme je te dis, sans se consulter. Fait que c'est de la coïncidence, le rendu là. Puis en même temps, moi, c'est des gens que j'admire. Là, tu sais, Maxime Giroux, Denis Côté, c'est des gens que j'admire beaucoup. Et je trouve ça réconfortant quelque part. Moi, je trouve ça bien stimulant de pouvoir dire, quand je vais à l'étranger, qui sont tes sources d'inspiration. Puis dire, mes contemporains, mes pères, tu sais, pas juste eux, plein d'autres cinéastes. Puis des cinéastes qui m'ont précédé aussi, mais entre autres, je partage je vois bien qu'on partage des intérêts communs. Ouais. Fait que moi, je me sens pas brimé ou je me sens pas... Puis j'ai l'impression que ces comparaisons-là vont nous pousser peut-être dans les films suivants à préciser encore plus notre signature. Parce que je pense que déjà, c'est clair qu'on a une signature personnelle. On peut dire des signatures qui sont faciles à repérer, je pense. Et j'ai l'impression que ça va juste nous pousser à les préciser encore plus, et peut-être à nous amener ailleurs, tu sais.
C'est peut-être la définition même d'une tendance, dans le fond. C'est de naître avec la naissance de cinéastes, puis qu'ils vont tranquillement se diriger vers des lignes différentes
peut-être,
chacun.
Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il est trop tôt. Tu sais, oui, c'est facile de faire des comparaisons, là, mais j'ai l'impression qu'il est trop tôt pour voir exactement c'est quoi les limites de ça. Est-ce que c'est une affaire de 2 ans ou ça va s'échelonner sur plusieurs films? Et...
Mais peut-être en restant au niveau de la démarcation entre ton cinéma et, bon, peut-être, je sais que ça va sembler un peu vaste, mais le cinéma québécois en général actuel, personnellement, je ne sais pas si c'est, je me trompe ou pas, mais j'ai beaucoup perçu En terrain inconnu comme un film comique, comme une comédie. J'ai aussi beaucoup vu de démarcation entre ce film-là, qui serait peut-être, selon moi, plus une comédie québécoise que bien des comédies québécoises qui existent. Alors, il y a une idée d'économie de mots dans ton film. Je ne sais pas comment tu travailles à ce niveau-là, peut-être par rapport à la comédie qui se fait ici, qui est beaucoup plus bavarde, alors que la tienne est beaucoup plus formelle. Est-ce qu'il y a un travail en particulier par rapport à la comédie?
C'est sûr, tu sais, partant de l'idée que le cinéma, c'est de l'image et du son, je vais beaucoup travailler ça en partant dans le scénario, c'est-à-dire l'économie de mots. Pour ce film-là, j'avais quand même envie de travailler plus les dialogues. Je pense que Continental, même s'il n'y avait pas beaucoup de dialogues, m'a donné une confiance en ma capacité d'en écrire, ou en tout cas, et à mon envie d'en écrire. En même temps, j'aime beaucoup que les gens parlent pas de ce qu'ils devraient parler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des dialogues, les gens sont en train de parler, mais c'est juste pour remplir le vide. Puis ce qui fait que tu te retrouves rapidement avec deux couches tout de suite, là, tu sais, comme le drame qui se passe, puis une couche de vide qui est verbalisée juste au-dessus. T'sais. La scène du souper, mettons, dans Terrain inconnu, est un bon exemple. Là, on fait juste remplir le malaise, puis on veut surtout pas que tout le monde arrête de parler en même temps, parce que le silence est tellement lourd que vite le gendre se met à parler parce qu'il est incapable de souvenir ce silence-là. Fait que c'est beaucoup là-dedans, puis j'aime l'idée qu'on rit, mais que des fois, on se demande pourquoi on est en train de rire. Et je trouve aussi, et ce que je constate quand je vois... le film projeté devant du public, c'est que ça devient une expérience collective et que le film, puis je pense que c'était le cas de Continental aussi, si tu le vois tout seul chez vous, c'est pas la même expérience que si tu le vois avec 250 personnes dans une salle qui se mettent à rire, parce qu'il y a toujours 2-3 qui vont voir le côté comique, qui vont rire, puis ça devient contagieux. Et finalement, tout le monde se met à rire, tout le monde se donne le droit de rire de ces situations-là qui sont pas toujours drôles, en fait. Puis là, le but après ça, c'est toujours de garder le côté humain de la chose, puis de pas rire de tes personnages, en fait. C'est de rire des situations. puis de puis que ça a l'air en fait d'un peu d'une caricature de nos vies, tu sais. Mais pour moi, ça reste important de que ça soit pas condescendant, en fait. Je veux jamais que le regard soit condescendant. J'ai envie qu'on aime ces personnages-là.
Je trouve que tu utilises des procédés, oui, effectivement, peut-être plus formels, peut-être visant à ces résultats-là, là, parce que bon, je pense évidemment à tout ce qui se fait ici, qui est, comme je disais tantôt, plus bavard, qui est beaucoup plus axé sur les mots, donc peut-être plus des comédies qui se rapportent au Sud, alors que les tiennes sont très nordiques. Comment tu te situes par rapport à cette idée-là que ton cinéma peut-être nous rejoindrait plus parce qu'il est nordique, peut-être parce que tu assumerais, mais c'est vraiment une supposition de ma part, qu'on est plus un peuple nordique que...
Moi, je l'assume complètement. Je l'assume complètement. Puis c'est bien clair qu'il y a des films scandinaves qui m'ont marqué, tu sais, puis je m'en cache pas. Puis à un moment donné, quand tu rentres dans cet univers-là, puis tu te rends compte qu'on a un humour, en fait, qu'on partage un peu le même humour des fois. Et est-ce que c'est dû au climat? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a rejoint dans l'humour plus scandinave, plus nordique, puis beaucoup de, qui est beaucoup par le silence, puis qui est beaucoup par le non-jeu, qui est beaucoup de ne pas jouer la blague, mais que la blague soit déjà là. T'sais, en fait, la blague...
Elle attend qu'on la joue, en fait.
Exactement, ouais. La blague... puis avec Réal Bossé, on avait eu beaucoup de discussions là-dessus sur Continental. Lui, il avait fait une émission qui s'appelait le Sketch Show,
oui.
Qui, je pense, était d'ailleurs l'adaptation de sketch anglais, en fait.
C'est britannique, le concept britannique.
C'est ouais. Bon, ben, puis eux autres, ils l'avaient abordé comme ça, c'est-à-dire on joue pas la blague parce que la situation est tellement niaiseuse, est tellement absurde qu'on n'a pas besoin de la jouer, t'as juste à dire la ligne, puis ou c'est de la comédie de situation. Puis c'est beaucoup comme ça que j'aborde la comédie. T'sais. Mais en même temps, dans un terrain connu par rapport à Continental, je pense que j'avais envie de le pousser un petit peu plus loin, d'assumer un peu plus ce côté-là, quitte à presque aller trop loin des fois. Là, t'sais, en regardant le film, des fois, je trouve que je suis sur le bord du cabotinage. Là, t'sais, sur le bord même que des fois, je trouve que je mets quasiment un orteil dedans, mais j'ai comme décidé d'assumer, puis d'y aller, puis ouais, c'est ça. Puis de ne pas me censurer à ce niveau-là.
Justement, ben, je pense qu'il y a une référence qui a été souvent répétée par rapport à ton cinéma, qui est Roy Andersen. Tu centres beaucoup tes gags à l'intérieur du plan, alors que je pense à Elias Souleymane, mettons, qui lui est plus un disciple de Jacques Tati, je crois, et qui, la gag, on ne sait pas où il se passe à l'intérieur du champ. Est-ce que tu as une position là-dessus? Est-ce que c'est intentionnel?
Non, là tu es trop spécifique. Bon, moi, je n'ai pas réfléchi à ce point-là.
Non,
non, je pense pas que ma réflexion se rende aussi loin que ça. Non, je n'ai pas.
Parce que c'est vrai que si on pense au cinéma d'Andersen, où comme je disais, ses gags sont très centrés au milieu du cadre.
Ouais.
Et j'ai beaucoup retrouvé ça dans tes
films. En même temps, il y avait beaucoup d'argent dans... Ben, tu sais, Roy Andersen, ça a été pour moi... puis je pense que son influence se faisait encore plus sentir... Ça faisait surtout sentir dans Continental, en fait. Je pense que je travaillais... Je ne sais pas si j'avais commencé à travailler sur Continental à ce moment-là. Mais moi, ça faisait des années que... Depuis l'université, je voulais faire un film où il n'y avait pas d'histoire, tu sais. Puis je me demandais si ça pouvait tenir la route, puis tout le monde me disait non, non, non. Puis quand j'ai vu Songs from the Second Floor, il n'y a pas d'histoire dans ce film-là. Ce ne sont que des moments. Et c'est un regard sur la condition humaine qui est extraordinaire. Tout ça par l'humour très noir, tout ça. Ça m'avait influencé, tu sais. Oui, il y avait une certaine forme d'esthétisme qui s'est retrouvée dans Continental, mais vraiment, moi, ce qui m'avait plus inspiré de son film, c'était ça. C'était le côté collage, le côté anecdotique, le côté sa capacité d'observation du monde, puis sa capacité à nous le rendre aussi, puis à nous faire rire très jaune. Tu sais.
Ouais.
C'était surtout ça, moi, que je retenais.
Alors que là, au niveau de En terre inconnue, c'est plus narratif quand même.
Oui, puis ça, c'était une volonté. Ça faisait partie d'un peu des... On dirait qu'on se fait toujours une petite liste inconsciente des choses qu'on a envie de pousser pour le suivant. Puis j'avais envie qu'en terrain connu. En fait, je me suis rendu compte, c'est ça, que Continental, j'étais pas capable de le raconter. Puis ça me frustrait à un moment donné parce que j'arrivais en entrevue, fallait dire qu'est-ce que c'est le film, puis j'étais même pas capable de le dire. Alors que celui-là, il est quand même plus facile à raconter. Mais j'avais envie de m'imposer ça comme un peu comme un défi, d'essayer de raconter quelque chose, parce que j'avais l'impression que j'avais jamais réussi avant.
Ah non? OK.
Même dans mes courts-métrages, à raconter vraiment une histoire, un début, un milieu, puis une fin.
Et tu l'as quand même scindé de façon assez nette, ton film, entre la première partie qui se passe dans la dite banlieue,
ouais,
et là ensuite vers le chalet. L'isolation des deux, du frère et de la sœur, pour mieux faire une connexion?
Oui, mais c'est drôle que tu dises ça, parce qu'au départ, dans le scénario, on a joué avec un peu au montage, mais dans le scénario, il y avait l'idée des trois accidents. Par contre, le premier accident, c'était uniquement la sœur. Le deuxième accident, c'était le frère. Puis le troisième accident, c'était le départ, les deux ensemble. Puis finalement, ça tenait mieux la route qu'on mêle rapidement les cartes pour qu'on sache pourquoi on présentait deux personnages, puis qu'on les ait en parallèle.
Donc, tu aurais présenté uniquement la sœur au début.
C'est ça.
Oh, ouais.
Mais en fait, Continental aussi devait être construit comme ça, sur papier. J'ai échoué dans mon rêve de faire un film à chapitres. On a enlevé les chapitres au montage. Là, je me suis repris dans un terrain inconnu. Puis là, mais c'est réglé, c'est fait.
C'est bon, tu peux cocher ça.
Je peux cocher ça. Mais il y avait l'idée des accidents qui marchait bien avec le film, parce que ça vient relancer la tension un peu qu'il y a dans le film.
Ouais.
Puis ça met le spectateur dans un état d'attente tout le temps, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Parce que le film commence avec un accident qui est clair, alors que les autres le sont de moins en moins. T'sais. Mais il reste qu'il y a une tension, puis même que, en voyant le film avec du public, moi ça fait 50 fois je le vois, là, t'sais, à force de travailler dessus. Mais là, de sentir la tension dans la salle, je me rends compte qu'il y a des moments que j'avais pas pensé, en fait. J'avais pas prévu, où les gens sont comme nerveux parce qu'ils pensent que les personnages vont se blesser. Mais finalement, c'était pas nécessairement intentionnel.
Bien, il y a la scène dans l'auto au moment où ils partent.
Ça, c'est intentionnel, évidemment.
Le personnage de Benoît est vraiment stressé.
Ouais, ouais, ouais.
Je pense qu'on stresse avec lui.
Ouais, ouais. Ça, c'était intentionnel, mais par exemple, juste au souper avant, quand le beau-frère lui donne son couteau, moi, c'était pas intentionnel de penser qu'il allait s'ouvrir la main, tu sais. Mais je sens dans la salle que, hop là, tu sais, il va se blesser. Puis en plus, il a l'air complètement maladroit, mais j'ai senti dans les deux, trois projections que j'ai vues avec le public.
Ben, peut-être en même temps que le gag fonctionne encore mieux, le gag du twist cap de la bouteille de vin, parce que la tension est relâchée vers ça.
Exact.
Mais, donc, au niveau du récit, on est dans une narrativité quand même, c'est assez précis, mais en même temps, peut-être l'idée de suspense que tu as retravaillée au niveau justement des accidents, est-ce que tu as voulu faire, veux pas, un film à suspense? Parce que tu voulais cocher film à suspense dans ta liste.
Je voulais pas le cocher, mais j'avais vraiment envie d'un film, qui avance, qu'on ait l'impression que le film avance tout le temps, puis que... Je voulais un film plus ramassé, plus concis, puis qu'on s'attache aux personnages, puis qu'on se demande ce qui va leur arriver jusqu'à la toute dernière seconde. Puis je suis parti avec cette idée-là, puis voilà.
Puis ces fameux personnages-là, on a évidemment le frère et la sœur, le mari joué par Sylvain Marcel. On a une pastiche assez intéressante du personnage banlieusard, avec son vélo, la pelle, son attitude, son couteau, le couteau qui est quand même fondamental.
Mais je voulais que ce personnage-là du chum soit une espèce d'optimiste, toujours de bonne humeur, mais qui cache en fait une grande incapacité à gérer le drame aussi. Ouais. Quand sa blonde elle rentre en pleurant, il sait pas comment dealer avec ça, il sait pas quoi dire. Il dit va t'étendre un peu, il est figé, il bouge pas d'une miette, il descend pas de son bicycle, il sait pas quoi faire avec ça. J'aimais l'idée de... Puis c'est ça, pendant le souper, c'est lui qui essaie de remplir le malaise tout le temps. Il les sent, mais il fait semblant. Il y a du déni un peu,
Peut-être qu'on est un peu lui à l'intérieur de cette famille-là aussi.
Aussi, un peu, oui, je pense. Je pense que tu as raison. On ne sait pas où se mettre. C'est toujours embarrassant quand tu retournes dans une situation chez quelqu'un d'autre, puis que la chicane pogne, puis là, tu veux juste en aller. Oui, un peu. Tu as peut-être raison.
Mais c'est ça qui serait intéressant, en fait, c'est que dans la deuxième partie au chalet, là, on se retrouve tout seul avec les deux.
Ouais.
On n'a pas le choix de dealer avec eux.
Ouais. Et eux, ils n'ont pas joué de délai avec entre eux non plus.
C'est ça. Le personnage du père, bon, je pense qu'on joue peut-être un petit peu sur les archétypes québécois. Je pense que la fameuse, bon, on en parle plusieurs fois, mais la scène du souper, qui est quand même un grand classique chez nous,
oui.
Bien de chez nous, comme on dit.
Revisiter.
Oui, c'est ça. As-tu voulu revisiter les archétypes? Ben, le père, je pense, est assez...
C'est drôle parce qu'au début, je voulais absolument éviter l'archétype du père traditionnel qu'on a toujours vu. Et puis même dans le casting, je pense pas que Michel Daigle était sur ma liste. T'sais. C'était pas ce physique-là que je cherchais au début. Puis à un moment donné, tu te rends compte que les clichés sont pas des clichés pour rien. C'est parce qu'ils correspondent à une certaine réalité aussi. Les stéréotypes correspondent à une certaine réalité. Fait que Michel s'est avéré la personne qu'il fallait pour faire le film pour plein de raisons. Pour faire le rôle du père. Puis j'aimais l'idée qu'on l'avait pas vu depuis longtemps aussi. Mais ce que je voulais briser peut-être dans l'archétype, c'est que moi je voulais comme un père qui tente de, tu sais, qui fait son bout, qui fait des efforts, mais que la communication avec son fils est juste impossible. Puis il y a pas de lieu de rencontre, ça se peut juste pas, tu sais. Bon, il y a une scène où le fils arrive avec un t-shirt où c'est écrit « J'aime les filles, j'aime les filles ». Puis bon, son père le questionne là-dessus, puis au lieu de juste dire « tu fais dur, puis mais pas ça », il essaie de comprendre. Et l'autre, il dit « Ouais, mais c'est juste une joke », mais il essaie de comprendre la joke, il essaie de se rapprocher de son fils d'une certaine façon. Au début, quand il dit « le skidoo marche pas », il veut l'aider, puis ça. Mais j'aimais aussi l'idée de la transmission qui s'est pas faite entre un père et son fils. Puis j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est... puis quand j'en discute autour de moi, qui est assez symptomatique de gars de mon âge. Nos grands-pères étaient des bâtisseurs, des défricheurs et des, tu sais, des manuels, des bricoleurs. Puis nous, on est mains pleines de pouces, on n'est pas capable de rien faire, puis pas capable d'installer une tablette comme du monde. Tu sais, il y a comme un savoir qui s'est perdu en chemin. Puis j'aimais cette idée-là de la transmission qui n'a pas eu lieu. Le père a le savoir, la connaissance, il est capable de partir en motoneige, mais le gars, il n'est pas capable parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait.
Bien, peut-être que plus tes personnages se rapprochent d'un certain cliché, peut-être plus ils sont retravaillés de manière à être réalistes, dans le fond.
Peut-être que c'est, à un moment donné, une fois que le cliché est installé, puis le stéréotype est là, puis que les lignes sont les bases du personnage sont jetées, après ça devient une question de dosage, puis de travail d'acteur aussi, là, mais de direction d'acteur, puis de eux, leur talent à interpréter ça.
Mais parlons-en de la direction d'acteur. Tu retrouves Fanny Mallette,
oui,
qui était dans Continental. Sinon, je crois pas qu'il y ait d'autres.
Il y a Denis Hull aussi.
Ah, okay, ouais,
Denis Hull qui joue l'homme du futur, qui jouait le voisin. Le voisin pervers. Pervers, mais le voisin coquin de Continental.
Ça se passe comment travailler de nouveau avec des acteurs et puis des acteurs avec qui tu n'as jamais travaillé?
Ben, c'est toujours de la même façon que de retravailler avec la même directrice photo ou la même directrice artistique, de retrouver des acteurs, ça fait qu'on part pas de zéro. On sait déjà comment travailler ensemble. Fanny sait déjà à quoi s'attendre, elle sait un peu comment je vais la diriger. Moi, je sais aussi quel chemin prendre avec elle. En même temps, c'est toujours... travailler avec des acteurs, c'est quelque chose de vraiment fantastique, puis c'est quelque chose qui s'apprend. Puis, tu sais, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Il y a quand même un peu de confiance qui s'est pris entre les deux films, je te dirais. Tu sais, mon Continental, je l'ai dit souvent, mais premier jour de mon premier long-métrage, j'arrive sur le plateau, je suis la personne qui a le moins d'expérience sur le film, puis je dois diriger Gilbert Scott, qui lui en a vu plusieurs. Je peux te dire que j'étais pas gros dans mes culottes, là, tu sais, puis là, il me demande qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, puis c'est-tu correct, tout ça, puis oui, puis moi, faut que je le dirige, j'étais vraiment super nerveux. Puis là, bon, ben tu passes à travers le film, puis tu as gagné de l'expérience, puis le deuxième, ben, tu arrives avec un petit peu plus de confiance, tu sais. En même temps, je pense que je sais ce que je veux, puis je sais où on s'en va, puis ça, je pense que ça aide autant pour moi que pour eux. Je suis pas en train de chercher sur le plateau. Je pense que les indications sont assez claires. La direction où on s'en va est assez claire. Moi, j'organise toujours une lecture, j'imagine que tout le monde fait ça, mais une lecture avec les acteurs principaux du film un peu avant le tournage pour répondre aux questions de tout le monde, puis que ça soit clair que même ceux qui joueront pas ensemble aient le même niveau de jeu, qu'on s'en aille à la même place.
Mais tu retravailles pas différemment ton jeu d'acteur selon le récit? Parce que là, tu changes vraiment d'un film à chapitre, pas à chapitre, mais un film à extrait, qui était continental. Ouais. Peut-être qu'extrait n'est pas le bon mot, mais comme on parlait tantôt. Alors que là, tu vas vraiment vers une narration. Tu n'avais pas, décidé de changer un peu ça, la manière de jouer de tes acteurs?
Oui et non, mais comme on a parlé tantôt, c'est sûr que le jeu va être motivé va être drainé par la nature des personnages. Puis comme on l'a dit tantôt, au niveau de l'humour dans le film, je voulais reprendre un peu ce même ton-là, très simple, puis on joue pas le gag. Donc, veux pas, on s'en allait un petit peu dans la même direction.
Pour en venir au personnage de l'homme du futur.
Pourquoi?
Ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une question geek que je vais te poser, complètement assumée. Cette idée de science-fiction-là, parce que je pensais honnêtement en voyant le film qu'on allait tomber dans des séquences d'espace-temps. Ouais. Je me sentais prêt à être plongé là-dedans.
As-tu peur?
Non, pas peur. Non, j'étais prêt à me laisser aller là-dedans. Mais oui, d'où ça vient cet élément-là? Ça, c'est vraiment purement une question personnelle.
Non, mais la question est valable. C'est c'est la première idée du film, en fait.
Okay.
La première idée que j'ai eue pour le film, c'était, avant même que ça soit un film, en fait, des fois, c'est juste des idées de scène que tu notes. Puis là, tu dis, ça serait le fun de quelqu'un qui vient. En fait, quelqu'un qui vient faire une mise en garde, puis que la mise en garde ne soit pas suivie. Puis pourquoi cette mise en garde-là n'est pas faite par un gars qui vient du futur? Puis tant qu'à y être, pourquoi il ne vient pas de juste 6 mois dans le futur?
Ouais.
Fait que donc, l'idée d'une petite science-fiction à petit budget, à zéro effet spéciaux, moi, ça me plaisait. Puis je pense qu'il y a un côté dans le film de beaucoup de fantasmes de petits gars, on dirait.
Ouais.
L'idée, c'est ça, de la science-fiction, l'idée des super-pouvoirs. Les skidoux, je sais pas, il y a comme des affaires de... briser des chaînes, avoir une espèce de force, l'espèce de lumière aussi. Fesser dans un bonhomme de neige. Je sais pas, il y a bien des affaires qui viennent de l'enfance, j'ai l'impression, de fantasmes, de super-héros. Pis,
le personnage de Benoît est définitivement très, très adolescent.
Oui, oui.
En passant, tu parles pas d'effets spéciaux. Si j'étais toi, je dirais aux gens que le bonhomme bleu, il est fait d'ordinateur. Je pense que ça passerait, là. Définitivement.
Il y a quelqu'un dedans.
C'est ça, exact. C'était le gars dans un personnage de Star Wars,
ouais,
que tu aurais récupéré.
C'est ça.
Ben, en terminant, on parle d'enfance, on parle de questions geeks. À part peut-être Roy Anderson, as-tu beaucoup d'influence? Et tes pères, évidemment, on en a parlé tout à l'heure.
Il y en a plein, mais tu sais, c'est pas juste des films, c'est du monde, c'est des auteurs, c'est des, tu sais, Raymond Carver en littérature, beaucoup. C'est probablement la personne qui m'a le plus, tu sais, inspiré, tu sais, le choix des gens sur lesquels il pose son regard, je pense, pour moi, ça me touche beaucoup. Mm. Puis sa façon de le faire, puis de planter des choses qui... tu penses vont avoir un sens, puis finalement, en ont pas, mais en ont un parce qu'ils en ont pas, ou peut-être que, tu comprends-tu, il vient brouiller les cartes, il place juste des éléments, il insiste juste un peu trop longtemps sur des petites affaires qui, finalement, plus tard, tu cherches des sens, puis il y en a peut-être même pas, mais en tout cas, ça, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Puis sinon, dans le cinéma, j'ai pas vraiment de... C'est surtout des films, tu sais... ou des courants, ou des... je sais pas.
Il y a des films qui t'ont marqué, qui sont venus en... Tu dis, il y a beaucoup de choses d'enfants là-dedans.
Ouais.
De rêves d'enfance. Peut-être que tu as vu des films quand tu étais enfant.
Probablement. Probablement qu'il y en a que je sais même pas qui sont dans le film puis qui sont là. Mais je sais que en tout cas, il y avait une volonté de revenir à... Tu sais, j'ai vu beaucoup de films québécois, des films de Carl, tout ça, tu sais, quand il est décédé, malheureusement. Je me suis retapé des films que j'avais vus ou ceux que j'avais pas vus aussi, puis je me suis rendu compte à quel point c'était flyé ce qu'il faisait, tu sais, puis que c'était une époque où il faisait des trucs, on est conservateur, je trouve, dans notre cinéma, beaucoup, par rapport à ce qu'eux faisaient. Et puis j'avais peut-être envie de revenir à ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est encore très conservateur. Il y en a qui trouvent ça bizarre, là, ce que je fais. Mais pour moi, c'est super conservateur par rapport à ce qu'eux pouvaient faire. Puis on verra comment ça va se manifester dans les prochains films, tu sais. Mais je trouve qu'ils flyaient pas mal plus que nous autres. On est un petit peu terre-à-terre.
Rêves-tu d'audace comique comme certains se le sont permis dans les années 70? D'une espèce de folie de passé? Je pense que bon, ça, c'est un exemple... qui est un peu à l'opposé, mais qui est quand même assez audacieux. Mais je pense à la fin de Blazing Saddles de Mel Brooks, où les personnages du western traversent le décor en déchirant les papiers et se retrouvent sur un plateau de comédie musicale. Tu sais, des idées comme ça.
Ben, peut-être que ça nous ferait du bien. Tu sais, ouais. Peut-être qu'on est rendu là. Peut-être qu'on a besoin de ça. Peut-être qu'il faut sortir d'une certaine... je sais pas, j'ai l'impression que là, on a, je sais plus qui j'ai inclus là-dedans, mais j'ai l'impression qu'on est plusieurs à graviter autour de même lieu commun, mais je pense qu'il y a une espèce de morosité ambiante qui a été qui est bien décrite, qui est bien dépeinte, qui est là. Là, la peinture est en train de sécher. Là, il faut peut-être mettre une autre couche de couleur par-dessus maintenant. Tu comprends-tu? J'ai l'impression que... Puis c'est pour ça que je te dis que peut-être que la prochaine vague de cinéastes qui va venir va justement avoir envie de se détacher, je le souhaite, de se détacher de tout ça, puis de faire un... quelque chose de complètement différent, puis nous amener complètement ailleurs. Puis on verra, tu sais. Puis déjà, tu sais, Xavier Dolan, avec son deuxième film, je trouve qu'il va dans cette direction-là du glamour, puis des couleurs, puis du trop, là, quasiment. Puis moi, il y a quelque chose que je trouve réjouissant là-dedans, que je trouve rafraîchissant, en fait.
D'audacieux, carrément.
Ben oui, d'audacieux, mais je trouve que ça redonne un film sur l'amour, puis tout ça. Il y a quelque chose, je sais pas, moi, ça m'a fait du bien.
Ben merci beaucoup, Stéphane, pour l'entrevue. Bonne chance.
Merci.
C'est tout ce que je sais. C'est le plus et le moins que je te souhaite.
Merci beaucoup.